Demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Urbanisme, architecture, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre l'émission de la semaine dernière qui était l'émission sur le film Le Brutaliste, ou The Brutalist, pour le dire en anglais. Et ça me semble un sujet qui mérite une deuxième émission, mais on va développer deux parties. Une plus théorique sur le cinéma et la vérité. Et son rôle, et justement ce film qui crée la polémique, ou du moins sur lequel on peut faire une émission polémique comme la semaine dernière, où j'avais dit, je n'avais pas dit que c'était un navet, mais j'étais pas loin de le dire, en tout cas, j'avais un avis très négatif, et je me suis rendu compte aussi, en regardant la presse étrangère, et notamment aux États-Unis, que le film avait eu de très fortes critiques, notamment dans le milieu de l'art et de l'architecture, où on avait dénoncé effectivement une falsification des faits qui était assez grave. Donc ça c'est pour la première partie, et après la pause musicale, la deuxième partie, bon, elle sera plus générale, mais on reprendra une thématique qui était la thématique du film, qui est celle de l'architecture américaine, de l'architecture en général, de l'architecture moderne, et quel est justement ce mouvement, le brutalisme. Alors, j'avais parlé de cela la semaine dernière, mais d'une manière un peu brève, et je pense que ce sera utile de le développer un peu. Donc, je reviens à cette histoire qui me paraît assez fondamentale entre le film qui est narratif et qui peut être donc totalement une fiction qui peut se passer dans le passé, qui peut se passer dans le présent, qui peut se passer aussi dans le futur. Alors là, évidemment, on était dans le passé. Et il y a plusieurs manières de faire les choses. Quand on s'inspire de faits réels, on peut dire inspiré d'une histoire vraie, ou alors on fait une sorte de biopic ou de film qui reprend un événement. Alors, sur Arte, dimanche dernier, il y avait un film qui s'appelle Pentagon Papers de Spielberg, et qui reprend une histoire américaine sur la déclassification de documents secrets de la CIA, enfin déclassification, du moins ça n'avait pas été déclassifié, c'est plutôt une suite, avec des conséquences très importantes, et le film est, je pense, près de la réalité. Bon, pour parler de Spielberg, on a également il a fait de nombreux de films assez fidèles à la réalité, sur la Shoah. Il a fait également sur Pearl Harbor et notamment aussi le film avec Tom Hanks, qui d'ailleurs joue dans le film dont je viens de parler, Pentagon Papers, c'était Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, Donc, on a c'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça permet d'avoir des reconstitutions, notamment du débarquement du 6 juin 1944. Et on a donc une histoire romancée et un film historique. Et là, ce que je reprochais au film, c'est d'être une réalité inversée. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme c'est là. C'est-à-dire que l'Amérique a accueilli à bras ouverts les... même plus que ça, on a donné les postes les plus prestigieux à des immigrés artistes. Et comme je vous ai dit, il ne s'agit pas de dire il y a la bonne Amérique et la mauvaise. Ce sont des stratégies très, on peut dire, capitalistes et intéressées des universités américaines, qui sont des entreprises, de prendre ces talents à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a eu simplement, on s'est servi du passé, et pour cela qu'il y a eu cet accueil dans ce Hollywood, en Perlouzé, les remises des awards, où on projette sur Trump et sur sa politique d'immigration, ce film. Alors, on ne veut pas évidemment attaquer directement sur ce qui se passe, donc on prend un film et on prend la réalité et on l'inverse et on la tord, ce qui me paraît totalement malhonnête. Je pense qu'il faut dire le mot pour des raisons assez hypocrites de politique intérieure que l'on ne veut pas nommer. Alors, par exemple, quand on voit effectivement plusieurs fois dans le film ce qui est dit par Brody, qui joue donc le rôle de l'architecte, qui serait donc Marcel Breuer, l'architecte allemand, puisqu'en fait c'est de ça dont il s'agit, mais en plus il est juif polonais, et donc il est très très mal accueilli, la vie est un enfer pour lui, attendu que dans la vraie vie, donc comme je vous avais dit, au contraire, il a eu les meilleures places, il a eu tout de suite un accueil chaleureux, et c'était pas du tout hystérisé, et sa vie a été assez tranquille, avec une agence très importante, les projets qu'il a réussi à avoir dans le monde, enfin, l'histoire totalement inverse. Donc, la question justement du cinéma est assez importante. Hors de ce fait, par exemple, il y a un autre film qui sont assez anciens et qui ont des conséquences sur la vision de l'histoire de l'art. C'est quelque chose évidemment qui m'intéresse, puisque c'est le centre de ce type d'émission et de l'émission que vous écoutez actuellement. Camille Claudel et Rodin. Alors là, effectivement, l'histoire, on est toujours sur des rapports, le créateur, la femme soumise, la passion, le couple. Bon, tout ça, effectivement, est très mélodramatique et prétexte à un film. Alors simplement, comme l'époque est très sensible sur ces sujets, on en arrive à une inversion totale, ou du moins une déformation de l'histoire de l'art. Et dans le cas, par exemple, de Rodin, le grand sculpteur, et puis son apprenti, qui est la sœur du grand écrivain Paul Claudel, et qui a 24 ans de moins que Rodin. Rodin déjà est un grand artiste, et donc l'histoire, c'est tout à fait le biopic idéal mélodramatique. Mais je vois de plus en plus des articles, ne parlons pas des réseaux, où petit à petit, et on arrive à dire, en fin de compte, le génie c'était Camille Claudel, et Rodin, en fait, était un copieur, un malotru. Et il faut se rappeler que le dernier film, alors il y en avait un Il y en a eu plusieurs, mais celui de Nuitén avec Adjani dans le rôle de Camille Claudel et de Depardieu dans le rôle de Rodin, il est évident qu'on doit projeter, enfin, on doit, je veux dire que certains dans le féminisme actuel projettent les turpitudes supposées de Depardieu sur Rodin. Alors du coup, Rodin devient Depardieu et on dit « Ah mais Rodin, c'était un épouvantable artiste et le Claudel, j'ai vu sur Facebook, je ne lirai jamais un livre de Claudel parce qu'il était le frère mal aimant de sa sœur. » Entendu que bon, l'histoire elle est triste parce qu'effectivement Camille Claudel a sombré dans la folie, mais il y a des effets tout à fait surprenants. C'est que Camille Claudel, je vous donne mon avis, était une sculpteur de talent, mais il y a beaucoup de sculpteurs de talent au 19e siècle, et Rodin, lui, il s'échappe du classicisme et du naturalisme, et il fait une œuvre qui va ouvrir, on peut dire, la sculpture moderne. Et Camille Claudel, elle est académique, mais il y a, à cette époque-là, des dizaines, et même peut-être même plus, de sculpteurs académiques. Allez faire un tour au musée d'Orsay, et vous verrez cela, mais enfin, on peut notamment le vérifier. Alors, ce que j'ai en train de vous dire, c'est que les œuvres de Camille Claudel ont pris un envol en vente aux enchères, et aujourd'hui se vendent aussi cher, si ce n'est plus cher que celle de Rodin, ce qui est quand même assez amusant. Voilà, donc c'était... on va marquer une pause musicale et on va reprendre sur ce sujet. Alors pour reprendre sur la transition sur le cinéma, il faut dire que le cinéma est une révolution proprement dite dans le XXe siècle. Et la thèse que j'ai déjà développée ici, c'est que le cinéma a cannibalisé les autres arts. Et il est devenu l'art majeur, l'art partagé par toutes les classes sociales, par tous les pays du monde, et pour une raison qui est tout à fait compréhensible, c'est qu'il a un narratif qui se développe et qui est le plus complet possible. Alors, dans son évolution, d'abord, évidemment, c'était en noir et blanc. Après, il y a eu le parlant, et ensuite, il y a eu le technicolor, la couleur, le grand écran, et évidemment, la révolution d'aujourd'hui, c'est la multiplicité des supports où on peut, sur des ordinateurs, sur les téléviseurs, n'en parlons pas. Il y a aussi le home cinéma, mais il y a surtout aujourd'hui, depuis quelques années, la possibilité de regarder sur l'écran personnel qui est le fameux smartphone et qui permet la connaissance, on peut dire, de tous les films que l'on peut avoir avec le déplacement et d'une manière personnelle, ce qui est tout à fait unique et extraordinaire. Donc, je reprenais sur ma thèse étant que le cinéma est le cannibale de l'art au XXe siècle et a renvoyé, on peut dire, l'architecture art premier a un rôle beaucoup plus fonctionnel et secondaire. Et en ce qui concerne les arts descriptifs, visuels, qui étaient la sculpture et la peinture. La peinture racontait des histoires, la sculpture accompagnait l'architecture pour aussi montrer des histoires. On parlait de Rodin, il y a les fameuses sculptures, les bourgeois de Calais, enfin, c'est du narratif. Et évidemment, aujourd'hui, le cinéma a pris tellement ce rôle que ça ne sert plus à rien de faire du narratif avec de la peinture, puisque ça paraît désuet et inutile, puisque l'image ne peut pas raconter ce que les récits font dans le temps. D'où aussi l'importance, c'était la première partie, du rapport à la vérité qui doit être clairement dit entre ce qui est fiction, ce qui est biopic, ce qui est réaliste ou pas. Donc, je voulais vous parler de l'architecture et par rapport à ce titre qui est le brutalisme. Et on vous dit dans... quand on rencontre ce film, que c'est un mouvement qui est un mouvement du milieu du XXe siècle. Alors évidemment, il est mal positionné dans le film parce qu'il est juste après la Seconde Guerre mondiale et le mot apparaît, on peut dire, dans les années 50, et je vous avais dit, je vais le répéter, c'était Le Corbusier qui l'avait employé parce que il avait, dans ces chantiers de l'après-guerre en France, où on avait une main-d'œuvre qui était défaillante, et aussi des moyens industriels qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc il avait fait, contre mauvaise fortune de mon cœur, il avait fait dans les moulages du béton, les moulages qui étaient faits avec des planches mal ajustées. Il avait dit que justement l'effet qui était dans le décoffrage, c'est-à-dire quand on enlève les planches et on a l'empreinte des planches, ça devenait du béton brut et c'était pour lui poétique et c'était le terme qu'il avait employé. Alors, évidemment, on n'a pas du tout cela aux États-Unis parce que l'architecture américaine n'est pas celle-là. Et l'architecture, comme je vous avais dit, elle était beaucoup plus basée sur l'industrialisation aux États-Unis. Alors l'industrialisation, elle commence très tôt. Dans le film de Western, par exemple, les maisons que l'on voit en bois dans la rue du Western, elles sont fabriquées avec une technique qui est propre, on peut dire, à l'Amérique du Nord, du balloon frame, qui est un système d'industrialisation qui a commencé très tôt, et avec, on peut dire, d'abord les bois qui sont abondants, et aussi une une technicité importée d'Europe, mais qui est sur l'industrialisation, on peut dire, des pays du Nord aussi. Il y a les pays du Nord ont une tradition qui est liée à la construction des bateaux, par exemple, et avec aussi du bois de qualité en abondance. Et les États-Unis ont, comme les pays du nord de l'Europe, un transfert de technologie et des conditions, on peut dire, territoriales et d'approvisionnement à peu près similaires. Alors après, il y a une deuxième période qui arrive au XXe siècle où les premiers gratte-ciels sont à Chicago et on a l'industrie métallurgique qui va être utilisée dans l'architecture et va permettre, notamment à travers l'utilisation du style gothique qui est comme tout le monde le sait, le style du médiéval qui a permis d'avoir les cathédrales aussi hautes, mais évidemment ce style a été abandonné parce qu'on était arrivé on peut dire, au maximum des possibilités et on ne pouvait pas continuer de le faire en pierre. Donc les États-Unis reprennent le style gothique, ils vont le faire en fonte, en métal, et on a les premiers gratte-ciel à Chicago et ensuite à New York et puis dans toutes les villes. Et puis ensuite, ce sera plus en style gothique, mais ce sera dans une architecture industrielle, mais qui sera notamment amené par un des, on peut dire, des collègues du Bauhaus, du Breuer, dont on a parlé avec le brutaliste, et qui s'appelle Ludwig Mies van der Rohe, qu'on appellera simplement par son nom principal Mies aux États-Unis, et qui aura une influence à la fois aux États-Unis, dans toute la construction des gratte-ciels des États-Unis, et on peut dire aussi le style international que l'on verra dans le monde entier. Alors, l'architecture américaine n'est pas faite que de bois et de métal. Il y a aussi une architecture qui est, on peut dire, dans l'histoire américaine, l'architecture classique qui va être construite en briques, qui va être construite en pierre et qui va être celle des bâtiments importants. Donc le Capitole, par exemple, à Washington, est en style classique. Et on a également les universités les premières qui sont faites en pierre tout le long de la côte est, Yale, Harvard, et Princeton, et puis et également sur de l'autre côté des États-Unis, Cornell par exemple, mais qui est construite en briques. Donc on a des constructions en style néoclassique que l'on va retrouver aussi dans les villes américaines, où on aura les bâtiments publics qui seront, alors les églises, qui seront les bibliothèques aussi. C'est un élément très important de l'architecture américaine et de la vie américaine, et aussi les musées. Donc on a une architecture, on peut dire, légère d'un côté, une architecture de transparence dans les bureaux, et puis et dans les gratte-ciel, dans les bâtiments hauts, et on a une architecture, on peut dire, dans les épaisseurs et dans une tradition beaucoup plus classique, donc de l'Europe romaine qui est la fille de l'architecture grecque et aussi de l'Europe classique. Donc Washington, par exemple, a été fait sur les plans, l'urbanisme, par un Français qui est l'enfant, sur une, on peut dire, une sorte de super Versailles organisé avec les parcs et la hiérarchie des avenues et des plans d'eau. Le brutalisme, on peut dire, c'est le mot brutal ne convient pas très bien à une architecture qui est simplement de l'opacité. Il y a un côté, me semble-t-il, péjoratif et négatif, et qui est contraire et qui n'est pas du tout ce que Le Corbusier avait désigné. Donc Aux États-Unis, j'avais dit ça la semaine dernière, mais l'architecture est très, on peut dire, dans une perfection de matériaux pour des raisons diverses. D'abord, c'est un pays riche qui permet d'avoir des choses très abouties, et c'est très rare d'avoir des bâtiments qui sont justement dans une architecture brutale. Et en tout cas, ce n'est pas du tout celle que Breuer a fait, et on le comprend très mal dans le film, surtout qu'on prend l'exemple des camps de concentration et des prisons comme référence. Alors, je sais que Trump veut réouvrir Alcatraz, mais ce n'est pas là notre sujet. Alors, je finirai en disant qu'il y a effectivement un architecte qui a fait du brutalisme. C'est un architecte qui s'appelle Paul Rudolph. Alors, vous le trouverez sur Internet. Et il a fait une architecture avec du décoffrage. Alors, vous comprenez ce que sont les banches, c'est-à-dire c'est les parties du moule dans lesquelles on verse le béton. Et c'était avec un motif, on peut dire, avec des V, une sorte de tôle ondulée, avec un motif. Et ensuite, c'était évidemment très très bien fait, et pas du tout, comme je vous disais, de l'architecture approximative de l'après-guerre. Et c'était... enfin, d'une certaine architecture, je ne suis pas général. Et donc, Rudolph faisait casser les arêtes des reliefs de ces moulages pour avoir un aspect, justement, brutal, et ce qui donnait un aspect qu'on peut dire que l'on trouve dans l'architecture des ruines ou des bâtiments très anciens, et c'est un effet assez étonnant. Or, ça avait eu un succès assez important, et en France, on peut dire que ça n'a pas eu beaucoup d'exemples, mais il y en avait un, et j'en parlerai s'il est assez personnel. C'est l'école d'architecture de Montpellier où j'ai enseigné pendant 20 ans et où on avait repris ce motif, et en fait qui est une architecture qui tient la route avec le temps, et c'est tout à fait intéressant. Alors là, on avait vraiment du brutalisme. Voilà, donc c'était la fin de ces deux séries sur ce film, Le Brutaliste, mais allez le voir et vous ferez votre opinion par vous-même si vous ne l'avez pas vu. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Grégor qui a eu la délicatesse de faire un intermède musical avec Le Pianiste, qui est un film de Polanski où joue effectivement Brody, qui est l'acteur principal et le nominé des Oscars pour le film « The Brutalist ».